19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Ravi de vous retrouver. Bonsoir, chers amis auditeurs partout en France. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Nous débutons cette première semaine, évidemment, avec plusieurs au menu, plusieurs sujets qu'on va traiter, qui ont retenu notre attention. D'abord, vous-même au 01 53 48 3000, vous le savez, plus que jamais, le standard est ouvert durant une heure jusqu'à 20h. Et puis, alors, les sujets qui ont retenu notre attention, parce que le face-à-face tout à l'heure, deux débatteurs influenceurs vont confronter la guerre en Irak. Nous tenterons aussi de vous décrypter l'analyse du regard. Finalement, que cherche Poutine? Que veut-il? On va essayer évidemment d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, évidemment, cette géopolitique. Mais, dernier sujet aussi qui a retenu notre attention, le Covid-19. Finalement, est-ce que ce relâchement ne risque pas d'être heurté à une autre vague? On posera en tout cas nous la question aussi, ici même, et je vous attendrai au 01 53 48 3000, au 19h30, avec Maître Philippe Honegger et son billet d'humeur, le Quoi de Neuf. Et l'invité du jour, eh bien, c'est le sénateur Rachid Temal qui viendra, dans une poignée de secondes, commenter les deux sujets, la guerre en Ukraine et la campagne menée, embarquée par Anne Hidalgo. Voilà, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et c'est parti, vous le savez, pour démarrer cette semaine avec l'invité du jour. Il s'agit du sénateur Monsieur Rachid Temal.
Les informés, l'interview. L'interview.
Et Monsieur le sénateur Rachid Temal, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Rachid?
Très bien, très bien. Je vous remercie. J'espère que vous allez bien et que vos auditeurs vont bien également.
Heureux de vous retrouver. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas, évidemment, entendu sur les ondes.
Ben, vous ne m'aviez pas invité, alors.
C'est vrai, vous avez raison. J'ai été... vous avez raison, mon cher sénateur. Vous avez raison, mais j'ai été, comment dirais-je, embarqué, moi aussi, noyé dans les sujets d'actualité. Et écoutez, je suis content que vous soyez avec nous. Nous allons parler d'abord de la guerre en Irak. Vous voyez, lapsus, quand même. J'en parlais avec mon invité sur le plateau, et on parlait de l'Irak. Vous vous rendez compte? Dites-moi, monsieur le sénateur, monsieur Rachid Temal, la guerre en Ukraine aujourd'hui, franchement, je vous pose la question très simplement. Comment vous la vivez? Et finalement, comme beaucoup, est-ce que finalement Vladimir Poutine, à tort ou à raison, devait de marquer son territoire, marquer le coup avec cette guerre? Pardonnez-moi de poser la question aussi provocatrice, monsieur le sénateur.
Bah d'abord, toute guerre est mauvaise, il faut le rappeler à tous les auditeurs. Dire la guerre, c'est des morts, des blessés, des gens qui auront leur vie brisée de façon psychologique. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine a choisi d'agresser, d'envahir et déclencher une guerre contre l'Ukraine, à la fois par son territoire, de la Russie, mais également de la Biélorussie. Donc il y a dans cette opération-là un agresseur et un agressé. L'agresseur, c'est Poutine, l'agressé, c'est le peuple ukrainien. Donc moi, encore une fois, nous soutenons... Je crois que tout le monde soutient l'Ukraine, le peuple ukrainien qui vit sous les bombes, hein, que je rappelle, voilà. Je veux aussi, et il ne faut pas oublier, il faut aussi rappeler que beaucoup en Russie manifestent contre la guerre. Donc il y a aussi une opinion publique russe qui n'est pas forcément du côté du soutien de la guerre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, rien, mais vraiment rien, n'obligeait ou n'a obligé Vladimir Poutine a déclenché une guerre. Je dis rien. Oui. Et ceux qui en France, je pense notamment à M. Mélenchon, à M. Zemmour, à Mme Le Pen, qui pendant des mois et des mois ont soutenu, rappelé tout le bien qu'ils pensaient de Poutine, aujourd'hui sont pour moi décrédibilisés, discrédités.
Monsieur le sénateur, je vous pose une question, je me fais l'écho des auditeurs, de certains des auditeurs qui nous écoutent partout en France, d'ailleurs ils sont très nombreux à nous écouter ce soir.
Mes parents, qui se posent par mes parents.
Eh bien on les salue chaleureusement, vos parents.
Ils vous écoutent régulièrement.
Eh bien écoutez, je les salue, s'ils nous écoutent régulièrement, eh bien je leur dis... Bonjour, chaleureusement à vos parents, vraiment, et je les remercie évidemment fidèlement. Voilà. Monsieur le sénateur, je voudrais vous poser une question. Je me fais l'écho des auditeurs qui se disent finalement, Vladimir Poutine a eu raison d'agir ainsi. Vous dites quoi? J'ai vu des vidéos circuler, j'en ai reçu d'ailleurs, et beaucoup sont d'accord avec Vladimir Poutine. Vous dites quoi?
Je leur dis, vous trompez. Aujourd'hui, ce qui fait une nation, un pays, ce sont ses frontières. En quoi? Pourquoi? C'est-à-dire que demain, deux pays qui seront en désaccord, au lieu de se mettre autour d'une table, de résoudre cela, déciderait de déclencher la guerre et tuer des gens? Ce serait ça le nouveau monde? Moi, je combats cela. La question de ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire que la capacité des peuples à régler leurs problèmes de façon pacifique, alors que bon, jusqu'à les guerres d'indépendance, c'était la guerre, les armes, et des millions de morts. Alors, bah, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Alors, monsieur... Et donc, je le redis, Vladimir Poutine est seul responsable. Oui. Puisque le chantage qu'on nous raconte, certains nous racontent des histoires, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, que la Russie aurait été agressée, ce n'est pas vrai. L'Ukraine n'était pas prévue à ce stade pour entrer ni dans l'Union Européenne, ni dans l'OTAN, ce n'est pas vrai. Mais la Russie n'est pas encerclée non plus.
Monsieur le sénateur, je veux vraiment... qu'on fasse, évidemment, et qu'on éclaircisse ce sujet, parce que tout le week-end, on en a parlé. Tout le week-end, j'ai reçu des échanges, des SMS avec certains. Alors, deuxième question, que beaucoup, évidemment, je me fais l'écho aussi de certains dans nos quartiers populaires qui se disent, évidemment, lorsqu'on oppose ces deux sujets, évidemment, avec les États-Unis d'un côté qui envahissent la Libye, qui envahissent l'Irak, qui envahissent l'Afghanistan, avec des milliers, des centaines de morts, et de l'autre côté, lorsque Vladimir Poutine attaque l'Ukraine, eh bien, on lui tombe dessus, et qu'aujourd'hui, hein, on a le sentiment que tout le monde, toute la communauté internationale s'offusque, évidemment, et condamne fermement. Et ils ont raison, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, encore une fois, je vous pose la question parce que beaucoup le pensent, je veux qu'on prenne le temps d'en parler, deux poids, deux mesures.
Alors, d'abord, il ne faut pas oublier que vous avez deux pays indépendants. N'oublions pas que Vladimir Poutine a signé, la Russie a signé, comme l'Ukraine, un accord sur les frontières. Je vous rappelle. Deuxième chose, Vladimir Poutine, et je le dis pour vos auditeurs, est celui qui a rasé Grozny.
Mais c'est bien de le rappeler, il faut qu'on rappelle effectivement.
Je le rappelle. Et d'ailleurs, ceux qui, comme vous dans les quartiers, qui se disent pourquoi il y aurait des musulmans contre des chrétiens, je ne crois pas à cela, je condamne cela. Mais ils oublient que Vladimir Poutine, c'est celui qui a massacré les Tchétchènes, qui sont musulmans. Oui. Je le rappelle. C'est celui qui refuse de condamner, par exemple, ce qui se passe avec les Ouïghours, qui sont eux-mêmes musulmans. Donc attention de faire croire qu'il y aurait un gentil Poutine et des méchants américains. La réalité, c'est que les Américains, sauf erreur de ma part, sont du côté de la démocratie. On ne peut pas dire qu'avec Poutine, c'est un régime démocrate. Donc Vladimir Poutine a envahi, rasé la Tchétchénie, le Daghestan, etc., des républiques musulmanes, je le dis. Il a ensuite fait l'opération en Géorgie. Qu'est-ce qui se passe là? Il décide de rentrer dans le territoire ukrainien pour conquérir la Crimée. Il décide de reconnaître deux régions qui sont plutôt russophones, en disant, bah, là aussi, on les reconnaît indépendants. Si on joue à ce jeu-là, c'est la guerre dans le monde et le chaos, puisque chacun dira je suis indépendant et tel pays rentre dans tel pays. Vous voyez bien que ce n'est pas entendable. Donc alors, moi, encore une fois, la France, elle n'est pas rentrée dans la deuxième guerre d'Irak, elle a refusé sous Jacques Chirac. Donc on ne peut pas tout mélanger. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que s'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, personne ne le connaît à ce stade, puisque je rappelle que les raisons que dit Monsieur Poutine, elles sont erronées. Premièrement, qu'il serait soumis à une pression de l'OTAN, alors que l'OTAN n'est pas en Ukraine. Deuxièmement, que le régime ukrainien, ce serait des nazis. Je ne vois pas de quoi on parle. Et voilà, donc, à la fin, il cherche des excuses pour envahir. Il affaiblit d'autant plus son peuple, et il affaiblit d'autant plus son économie. Et alors, ça, c'est aussi un vrai problème pour...
Dernière question sur ce premier chapitre concernant la guerre en Ukraine. La Russie, évidemment, on vient de l'apprendre, est exclue du prochain mondial de football au Qatar, qui se tient au Qatar, est exclue économiquement. Elle est évidemment aujourd'hui de toute... Tout est fait en sorte pour qu'on bloque la Russie. Ma question, est-ce
que... Non, c'est fait en sorte pour qu'on arrête la guerre engagée par le régime de Poutine.
Et de condamner, évidemment, économiquement et
vous l'aurez compris. C'est un levier. Parce qu'il faut rappeler à vos auditeurs que si la Russie a des armes, le PIB de la Russie, c'est le même niveau que, on va dire, que la Belgique. Donc en fait, la Russie n'a pas la capacité économique. C'est pour ça qu'on a exclu du système SWIFT un système bancaire, qu'on bloque les aspects économiques et financiers, parce qu'il faut très vite faire stopper les morts et les blessés en Ukraine de par la décision de M. Poutine.
Rachid Temal, monsieur le sénateur. Ma dernière question sur ce chapitre guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter dans les prochains jours lorsque Vladimir Poutine brandit évidemment l'arme nucléaire? Est-ce qu'on peut être inquiet, nous, Européens, Français?
Vladimir Poutine ne brandit pas, il dit qu'il met en alerte. Bon.
Ah, c'est bon à dire, hein, il l'a dit à plusieurs reprises. Bon.
Oui.
Il rappelle quand même au monde qu'il a des bombes.
Bien sûr, l'Europe en a, nous avons nous en France un outil de dissuasion également, les Britanniques, les Américains aussi. Personne ne veut en arriver là. Et le principe de la dissuasion, c'est de ne pas en parler parce que c'est un élément. Moi, je crois qu'il y a un aveu de faiblesse de M. Poutine. Je ne suis pas, moi, dans la tête de M. Poutine, vous dire exactement ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que, vous savez, on a connu ça dans les années 30. À penser qu'il faut toujours céder, vous avez à la fin le déshonneur et la guerre. Je pense qu'il faut, dès à présent, dire que des choses ne sont pas acceptables dans le continent européen. Et donc, les guerres, l'invasion, la destruction ne sont pas acceptables. Il faut tenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est une bonne chose que l'Europe enfin achète des armes, que l'Europe fait des choix militaires qui sont nécessaires parce qu'il faut que la puissance européenne, elle soit pas seulement économique, mais également politique et militaire.
Rachid Temal, monsieur le sénateur, parlons maintenant de cette campagne présidentielle. Anne Hidalgo, parce que vous faites partie du Parti Socialiste, avec son affiche, changeons d'avenir. Ensemble, changeons d'avenir. Je vous pose la question clairement, parce que c'est aussi dans l'esprit de beaucoup de gens. Est-ce qu'elle n'est pas douloureuse, cette campagne, pour Anne Hidalgo et pour vous tous ? Entre un constat d'échec, entre une tentative de relance qui d'ailleurs ne décolle guère.
Alors d'abord, il y a plusieurs choses. Vous avez les sondages, il y a des papiers qui ont été faits sur comment aujourd'hui construire les sondages, il y a de quoi parler. Et il y a aussi la réalité sur le terrain, sur les parrainages. Anne Hidalgo est la troisième à avoir le plus de parrainages. Ce sont des élus qui, il y a à peine 2 ans, étaient élus par les Français eux-mêmes. Donc ça veut dire aussi des choses. La campagne, c'est sûr que je préférais vous dire qu'on est à 25 là où nous sommes, c'est clair, mais moi je crois à la réalité du terrain, je crois au débat. C'est vrai que maintenant il faut qu'il y ait des vrais débats, la situation ukrainienne ne va pas aider, il faut le reconnaître, et donc il faut des débats, il faut projet contre projet. Aujourd'hui, quand vous parlez aux Français, ils entendent parler de moins de campagne, les projets n'existent pas. Dans une campagne électorale, c'est quand le président sortant est en campagne qu'on peut parler du bilan et du projet. Et de, je crois que c'est à ce moment-là qu'on verra la réalité entre ce que proposent les uns les autres. Vous avez l'extrême droite.
Oui, mais ça ne décolle pas, monsieur le sénateur. Est-ce que ça ne décolle pas parce que c'est incarné par Anne Hidalgo ou parce que c'est le Parti Socialiste ?
Mais Anne Hidalgo a été réélue à Paris alors que tout le monde en est battu. Bon, sur les socialistes, on nous a disparu et nous avons su, au niveau des départementales, des municipales et des régionales, gagner aussi. Donc, aujourd'hui, je vous le dis, moi, je suis footballeur. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est-à-dire tant que le dernier bulletin n'a pas été dépouillé, il y a campagne.
Même si certains vous disent que tous les voyants sont au rouge.
Mais quels voyants? Les sondages? Dans ce cas, on ne fait pas d'élection parce qu'il y aura les sondages qui auraient parlé. Je vous rappelle qu'en France, jamais les sondages donnent le vrai résultat. Donc je ne vous dis pas qu'à la fin, ça ne se passera pas. Je vous dis que si on pense qu'il ne faut rien bouger, il ne faut pas faire de politique. On pense qu'on ne peut pas changer les choses. Moi, je crois que notre capacité à dire aux Français que pour changer, par exemple, dire que tous les smicards auront 200 euros de plus par mois avec Madame Hidalgo, ça change les choses. Dire que chaque Français, pas plus de 30% de votre revenu pour payer votre loyer, ça change les choses. Faire en sorte que vous n'ayez plus de passoire énergétique chez vous, où vos gosses sont obligés de dormir avec des blousons ou avec un chauffage électrique à côté d'eux, et ben ça change les choses. Il faut donner aux Français ce que ça veut dire concrètement de voter pour un tel ou pour un tel. Vous avez Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, d'extrême droite. Vous avez Madame Pécresse, où elle habite. Monsieur Mélenchon, qui est décrédibilisé avec ses propos scandaleux sur la Russie, et vous avez au milieu de ça des gens qui sont capables de diriger ce pays. Madame Hidalgo, elle est capable, elle l'a démontré à la tête de la ville de Paris, et donc il faut aller jusqu'au bout de la campagne, je crois que c'est une bonne chose.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Ce sera ma dernière question à celles et ceux qui vous écoutent partout en France, monsieur le sénateur Rachid Temal.
D'abord, première chose, qu'il faut, vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire.
Encore
on a
quelques
plusieurs
jours.
plusieurs millions de Français qui ne sont pas inscrits ou mal inscrit sur les
fake. Vous avez raison, je le dis en permanence.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de venir, d'écouter les débats, de lire les propositions, et ensuite de voter. Quel que soit votre choix, moi, vous connaissez le mien, mais quel que soit votre choix, votez. Je le dis, parce que je veux dire, on parlait tout à l'heure de mes parents de cette génération-là. Ils ont fait le choix de venir en France, de sacrifier leur vie pour que nos enfants, ce que nous sommes nous, ayons une chance de mieux vivre.
Exact.
Alors, je le dis à ceux de ma génération, ceux d'en dessous, allez voter pour vos parents. Pensez à vos parents et sacrifiez. Pensez à votre pays qui s'appelle la France. Pensez à vos enfants qui sont dans les écoles françaises. Et donc, si on regarde cela, faites un choix, votez pour vous, dans leur intérêt également.
Merci Rachid Temal, sénateur donc Parti Socialiste. Merci infiniment, bon courage à vous, 19h15. Et à très bientôt, bien sûr, avec plaisir, à très bientôt Rachid Temal. 19h15, bon et mes salutations à vos parents évidemment qui nous écoutent. 19h15, et on va marquer la première pause pub et on se retrouve tout de suite après, 01 53 48 3000, le standard est ouvert avec les sujets que je viens de vous parler, évidemment avec nos débatteurs influenceurs, ils sont là fraîchement. Nadir Kaya, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Abdeslam Itage, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir aux auditeurs.
Pourquoi vous faites la tête? Qu'est-ce qui se passe, messieurs?
Non, j'ai entendu un discours qui m'a rappelé des années fâcheuses entre les banlieues et cette fameuse gauche.
Mais je vous promets, je ferai ce débat.
Et notamment sur le penser à
débat.
Vos parents.
Ouais. Je ferai ce
on
débat.
On y pense toujours, mais on pense surtout à nos enfants.
Allez, je lance la pub. Allez, on lance la pub, on revient tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés, 19h21, bienvenue si vous venez de nous retrouver dans Les Informés, vous le savez. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie infiniment. Je disais donc pour accueillir tout de suite le face-à-face, c'est parti, jingle.
Les Informés, le face-à-face.
Celui qu'on retrouve parmi nous, évidemment, il incarne les quartiers populaires, mais aussi banlieue plus. Ah oui, tu peux l'acclamer? T'as pas un truc pour l'acclamer, tu sais?
Y a pas des youyou.
Il kiffe ça, tu sais, Nadir, comment ça va, Nadir Kaya?
Ça va très bien, Adil. Farkan,
ouais, plaisir de vous retrouver.
Bah, également, toujours pareil.
Tout va bien.
On est bien reçu à Beurre FM, heureusement.
Regardez comment on vous accueille, regardez.
Tu vois,
vous aimez le foot, regardez. On n'est pas bien, nous, à la radio, quand même, à Beurre FM.
Super, heureusement que vous êtes là.
On sera au vélodrome, là.
Non, lui, il est PSG, hein.
Bah, PSG, bien évidemment.
Bien évidemment, moi aussi je suis un Parisien.
À Marseille, il y a très peu de personnes qui supportent
le PSG. Moi, je suis Parisien. Tu rigoles, il faut.
On est Parigo jusqu'au bout.
On est Parigo. Merci de le rappeler. Je n'ai jamais compris ceux qui sont trop Marseillais. Ils n'habitent pas Marseille, mais ils supportent Marseille, tu sais.
Ouais.
On est Marseillais, mais t'habites où, frère? T'habites à Paris?
Ils sont nostalgiques d'une certaine époque, je pense.
Tapis.
Voilà.
Tapis. Moi aussi, j'étais tapis, évidemment, parce que c'était l'air tapis. Abdeslam Itage, celui qui représente le MoDem dans le 95.
C'est ça.
Département du 95. Ça va?
Ouais, très bien. Je suis ravi d'être là.
La campagne, pas encore, non?
Alors, on l'a suspendue par rapport à l'actualité, mais voilà. Bon, on attend juste que le président Macron se déclare candidat.
Il a reporté son déplacement
ensuite,
à Marseille.
Ouais. Mais la deadline, c'est le 5 pour faire acte de candidature.
Messieurs, nous allons parler, vous savez, de ce premier sujet qui, évidemment, a été mis sur la table. C'est une proposition de Zemmour, de Valérie Pécresse, d'Éric Zemmour, qui parle de la guerre en Ukraine, et vous le savez, ils demandent, les deux d'ailleurs, à Macron de nommer Sarkozy, et bien ça, médiateur du conflit. Je vois pas du... très honnêtement... Bon, je vous laisse parler. Nadir Kaya.
Non, moi ça me fait...
Proposer Sarkozy, médiateur du conflit.
Ça me fait doucement rire, parce que déjà c'est un délinquant. Il est reconnu comme délinquant, il a été condamné, il a encore d'autres affaires qui vont pas tarder à arriver. Donc en termes de crédibilité, c'est pas sérieux. Deuxièmement, je pense qu'il faut...
T'imagines, t'envoies mes Sarkozy...
Non mais ils ont oublié...
Je t'envoie, tu vas régler la
chose. Fameuse séquence où Sarkozy
a été secoué
par Poutine et lui a rappelé que la France, par rapport à Poutine, il n'y avait pas de comparaison.
On lui a même prêté qu'il lui avait donné un coup de vodka.
Non et voilà, il est sorti tellement bouleversé...
C'est vrai à l'époque.
Il est sorti tellement bouleversé par cet entretien qu'on a eu l'impression qu'il avait bu trop de vodka. Non, c'est en fin de compte un coup de pression qu'il lui a mis physiquement en tête à tête. Il lui a rappelé que la Russie, c'était pas la France et qu'il fallait faire attention à ses propos au niveau international.
Et ça, il supporte pas Nicolas Sarkozy. Hein.
Non, mais Sarkozy, c'est pas lui, c'est que Poutine lui a rappelé qu'il était.
C'est pour ça qu'il était sonné.
Et je le vois pas franchement y aller là-bas. C'est pas crédible. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui est Macron. Il est ce qu'il est. Mais on peut lui reconnaître d'avoir été présent sur ce débat-là.
Il
a passé du temps là-bas avec Poutine. Ça a peut-être pas donné ce que les uns et les autres pensaient, mais il a quand même un rôle à jouer, notamment dans la présidence européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le numéro un en termes des représentants des États européens en termes de présence sur ce conflit et surtout sur le fait de si possible de le désamorcer.
Ouais.
C'est pas évident parce qu'on a
obtenir la paix, donc on a besoin de Nicolas Sarkozy alors.
Ah non, pas du tout. Non, je pense que là, c'est l'intox un peu. C'est du Zemmour et du Pécresse d'aujourd'hui. Ils sont en décalage là aussi, je pense. Un peu comme leur campagne et comme leur personne.
Mais ils disent quand même politique. qu'il faut des émissaires de la France pour la paix.
Ben non, parce que c'est discréditer Macron et l'Europe. Je pense qu'ils ont déjà assez à faire.
Mais attention, il y a un deuxième nom aussi qu'on suggère. Hein. Hubert Védrine.
Alors là, c'est plus intéressant parce que...
Ah, vous êtes à la clochette. Je savais qu'il allait plonger notre ami.
Non, mais c'est intéressant par rapport à son profil.
Ah, vous dites oui, mais vous dites oui, Hubert Védrine.
Sarkozy, il a été président, mais il n'a pas les compétences pour cette fameuse diplomatie internationale et au niveau de l'aura français. Alors qu'Hubert Védrine, lui, il a un passif, il est reconnu en tant que tel, ne serait-ce par des émissaires russes, des diplomates et des personnes à qui il a eu affaire dans le passé. Donc je pense qu'à partir de là...
Donc Hubert Védrine, oui. Nicolas Sarkozy, non.
Bah, c'est deux profils différents. Et Hubert Védrine, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été condamné par l'État français. C'est pas un délinquant, c'est le cas de Sarkozy. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut en France. On parle d'exemplarité. On veut des politiciens qui soient à l'image de nos valeurs républicaines et de nos traditions. Sarkozy, c'est plus le cas. Ça a été le cas à une époque, c'est plus le cas. Hubert Védrine, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas qu'il a été mêlé à une affaire ou alors qu'il a été condamné. C'est ça qui est important. Je pense pour les Français, même si celle-là, c'est une
non,
situation
il a jamais
un peu
été condamné. Non, du tout, non.
Voilà, il y a un aspect un peu mondial de cette situation.
Eh bien, tiens, on va aller s'intéresser justement à un autre point de vue, peut-être certainement qui viendra rejoindre le vôtre. Hein. Abdeslam Itach, on vous écoute. Alors, Hubert Védrine, Nicolas Sarkozy.
Alors, c'est deux profils totalement différents, et Nadir a raison d'évoquer justement ce fameux déplacement de Nicolas Sarkozy.
Oui.
Là-bas à Moscou, où il en est sorti sonné, et en effet, beaucoup ont pensé qu'on l'avait fait boire.
C'est vrai, j'aimerais bien qu'on retrouve. Tiens, Yannis, si tu peux me retrouver la vidéo concernant Nicolas Sarkozy à l'époque quand il est sorti dans.
Sarko,
tu verras. Je veux juste les premières déclarations, ses premiers mots. Abdeslam Itach, pardonnez-moi.
Mais ce que je veux dire, c'est que pendant 5 ans, il a brillé de sa médiocrité. Pourquoi refaire venir ce monsieur sur la scène internationale ? Je pense que Emmanuel Macron. On lui a donné mandat pour représenter la France. Nicolas Sarkozy pas.
Et peut-être qu'il peut être un bon émissaire, chers amis.
Et peut-être pas. Bah ouais, mais non.
Non, mais Adil, attends, faut être sérieux à un moment donné. Il a été condamné quand même.
Non, mais
il est plus crédible à ce niveau-là. À un moment donné, si les Français doivent être représentés par quelqu'un, c'est si possible quelqu'un qui est.
Autre chose, on connaît tous l'attitude de Nicolas Sarkozy j'ai l'impression d'avoir affaire à un enfant hyperactif. Le type serait capable d'appuyer sur le bouton nucléaire. Vous voulez permettre à Nicolas Sarkozy d'aller discuter avec Vladimir Poutine? Non mais on nage en plein délire. C'est juste pas possible. Non, laissons faire la diplomatie française, laissons faire Emmanuel Macron qui préside l'Union européenne et voilà, mais c'est la meilleure des façons. Ne mettons pas du trouble au trouble. Maintenant, l'attitude de Valérie Pécresse, vous savez, derrière ça, il y a un message.
Lequel ?
Elle veut absolument faire du pied à Nicolas Sarkozy pour dire « Regarde, je te valorise. Pour nous, tu es le meilleur d'entre nous.
»
Non, mais c'est exactement ça. Parce que ce qu'elle craint, en fait, c'est que Nicolas Sarkozy appelle à voter pour Emmanuel Macron. C'est le risque.
C'est ça,
et en fait, en faisant ça, c'est une façon
de
carrosser dans le sens du poil.
On rentre dans la politique.
Pour dire « Voilà, Nicolas Sarkozy est le meilleur. Il faut absolument qu'il nous sauve. » Voilà, rien de plus.
Hubert Védrine ? Vous dites quoi ?
Hubert Védrine est un éminent diplomate qui a des qualités. Moi, ça ne me gênerait pas. Mais vous savez, il peut justement être chargé d'une mission sans aucun problème.
Il est bon, Hubert Védrine.
Oui, il est plus que bon.
Et aussi Dominique de Villepin.
Aussi, pourquoi pas. Également, d'ailleurs, que l'on revoit revenir
qui est reconnu
sur la scène nationale.
Oui. Je serais pas étonné qu'il soutienne Emmanuel Macron, tiens.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Mais Nicolas Sarkozy, certainement aussi. Hein. Mmh. Et c'est bien la crainte de Valérie Pécresse qui ne décolle pas d'ailleurs dans les sondages.
Exactement. Écoutons ce court extrait lorsque, souvenez-vous à l'époque, la fameuse rencontre entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine, ça se passait en 2007, non ? C'est ça ? Allez, on regarde.
On s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ses attaques. Mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion.
Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent. Il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Anya Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy, « Oui. » « Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une, ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste...
Oui, bon, on va pas refaire évidemment toute l'émission. C'était un extrait diffusé sur France 2, souvenez-vous. Et alors, aujourd'hui...
Vous voyez qu'il aille représenter...
Ça n'a pas été démenti par l'entourage de Sarkozy à l'époque.
Oui, oui. Sur cette, elle ne l'a pas contesté.
Non, personne ne l'a contesté, effectivement. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et, alors, je ne sais pas si les relations entre deux hommes d'État, on peut se parler comme ça, mais bon. 19h30, on va revenir sur ce sujet, messieurs. On va continuer de parler de la guerre en Ukraine. Cela dit, il est 19h31 avec une minute de retard. Tout de suite, nous retrouvons, comme chaque lundi, Maître Philippe Henry, Honegger, chez Ruben et Associés. C'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bonsoir, mon cher maître. Comment ça va?
Bonsoir. Ça va, ça va.
Vous allez bien? Bon, vous avez décidé de nous parler, de nous consacrer votre billet d'humeur sur la guerre en Ukraine. On vous écoute, mon cher maître.
Bah oui, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous vous souvenez de cette formule prononcée par le président Macron il y a quelque temps déjà, sur un ton martial, oui, au début de l'épidémie de coronavirus.
Eh oui.
Quelle ironie de se dire qu'aujourd'hui même... Justement, nous sortons de cette crise sanitaire, puisque vous avez vu qu'a été supprimée l'obligation de porter le masque à la fois en extérieur et en intérieur, et que malheureusement, alors qu'on a, semble-t-il, vaincu cet ennemi-là, bah, on doit faire face à un nouvel ennemi, après Omicron, c'est Poutine. Mmh. Nettement plus virulent celui-là, qui, vous avez vu, nous a carrément menacé ce week-end d'une menace contre laquelle, malheureusement, ni les masques ni les vaccins ne peuvent faire grand-chose, puisqu'il a... menacé d'utiliser la force nucléaire.
C'est ça.
Et on se sent un peu démuni face à cela. Vous savez, comme on dit, il y a la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas de règles à la guerre. Il n'y a pas de loi. Et la communauté internationale s'est activée, a décidé de certaines sanctions contre la Russie. Vous avez peut-être vu passer qu'il y a l'Assemblée générale des Nations Unies qui se réunit aujourd'hui, un conseil de sécurité qui est prévu, que même l'Ukraine a saisi la Cour de justice internationale, parce que, justement, c'est pas à la guerre comme à la guerre. Et que depuis notamment la Seconde Guerre mondiale, mais depuis plus longtemps encore, le droit est partout, même dans la guerre, même pour la guerre, même contre la guerre. Et donc le droit va s'appliquer. Et comme je suis avocat et juriste, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui.
On vous écoute.
D'abord parce qu'il faut savoir une chose, la guerre dans le monde, oui, aujourd'hui est interdite. C'est interdit de faire la guerre, c'est l'article 2 de la Charte des Nations Unies de San Francisco, qui a ratifié notamment la Russie, et donc elle s'est engagée à ne plus jamais faire la guerre. Pourquoi on fait la guerre? Parce que la Charte des Nations Unies prévoit deux exceptions. La première exception, c'est la légitime défense. Si vous êtes en état de légitime défense, alors vous avez le droit de faire la guerre. Mais pour entrer en état de légitime défense, il faut soi-même s'être fait attaquer. La deuxième exception, c'est quelque chose qui est décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais je vous en parlerai. Vous vous souvenez, à l'époque où les États-Unis ont fait la guerre en Irak, c'est eux-mêmes qui avaient attaqué. Ils avaient inventé à l'époque une notion qui s'appelle la légitime défense préventive. En fait, j'ai tellement peur de me faire attaquer que c'est moi qui attaque en premier parce que je suis dans la légitime défense.
Ouais.
La Russie a un peu utilisé cette fois la même chose en disant, bah, vous voyez, dans ces territoires ukrainiens, en fait, il y a des génocides qui sont en train d'être commis. Et donc, pour protéger les Russes ou les russophones qui se trouvent sur ce territoire, on a une forme de légitime défense pour les attaquer, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont déclaré la guerre.
Mmh.
Vous allez me dire, bah oui, mais qui décide qui a raison? Parce que peut-être que les Russes mentent, peut-être que les Ukrainiens mentent. Eh ben, il y a une institution, ça s'appelle la Cour internationale de justice, qui existe depuis une centaine d'années. La Cour internationale de justice, c'est des juges qui sont à La Haye, qui viennent du monde entier, et qui disent justement, est-ce que vous avez bien appliqué ou pas bien appliqué ces règles qui sont prévues notamment par la Charte des Nations Unies. Et il se trouve que l'Ukraine, ce week-end, a introduit une instance devant la Cour internationale de justice en disant, bah, la Russie, avec son histoire de génocide, elle a fait n'importe quoi. Ils ont donc violé l'article 2, ils ont fait la guerre alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire la guerre, et il faut les condamner. Sauf que la seule condamnation que peut prononcer la Cour internationale de justice, c'est des condamnations financières. Bah, vous avez fait la guerre, vous n'aviez pas le droit, vous avez détruit tel bâtiment, vous avez tué des gens, ça vaut tant d'argent, il va falloir payer, vous êtes redevable devant la communauté communauté internationale de payer ça. Si on veut en réalité avoir un recours vraiment effectif et pas simplement financier,
oui.
Eh ben, il faut faire appel à la deuxième condition que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, on a un groupe de 12 pays qui se réunissent et qui ont la possibilité de faire appel aux forces armées, notamment aux casques bleus, pour dire on va aller faire la guerre, on va aller dans un pays, on va balancer des bombes, on va envoyer des soldats, on va potentiellement pouvoir tuer des gens. On prend des résolutions au Conseil de sécurité, c'est notamment ce qu'on va essayer de faire ce soir, il y a une réunion qui est prévue au Conseil de sécurité, et on a cette possibilité contraignante de force armée. Sauf que, vous le savez, il y a des pays qui ont le droit de veto, notamment la Russie. Et il suffit qu'un seul de ces pays dise non, et c'est fini. Ce qui veut dire qu'en gros, depuis la création des Nations Unies, bah, dès qu'un des pays qui ont le droit de veto, la France, la Chine, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, dès qu'un de ces pays a le droit de veto, bah, évidemment, il dit non. Et donc, on ne peut pas leur faire la guerre. Et donc, on ne pourra pas faire la guerre contre les Nations Unies. Autre recours qui est en cours en ce moment, c'est devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est tous les États du monde qui se réunissent, qui donnent leur avis, qui prennent une résolution et qui peuvent voter à la majorité et qui disent « la Russie a fait la guerre, c'est pas bien, il faut prononcer des sanctions, on n'est pas d'accord, c'est très très mal ». Sauf que l'Assemblée Générale des Nations Unies, même quand elle prend une résolution, malheureusement, elle n'est pas contraignante. Ils ne peuvent pas décider d'une intervention armée, ils peuvent décider de sanctions symboliques ou d'une condamnation symbolique, mais en réalité, ça ne sera pas contraignant. Et j'aime autant vous dire que Poutine, ça ne va pas lui faire très très peur. Et donc, on se retrouve dans cette situation où vous avez compris que finalement, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on pourrait encore faire, c'est le recours devant la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, elle condamne pas les États, elle condamne les individus, notamment quand ils ont commis des crimes de guerre. Tuer des civils, faire la guerre alors qu'on n'avait pas le droit de faire la guerre, faire des génocides, utiliser des armes qui sont interdites. Et donc on pourrait aller chercher la responsabilité de Poutine, aller l'arrêter, le mettre en prison, le juger à la seule condition que la Russie ait signé la convention internationale qui permet à la Cour pénale internationale de s'appliquer. Et vous imaginez bien que la Russie, comme les États-Unis d'ailleurs, ne l'ont jamais signé. Donc en fait, Poutine est totalement couvert par une sorte d'immunité internationale qui lui permet aujourd'hui de faire à peu près tout et n'importe quoi. Il y a le droit de faire la guerre, il l'a violé, il y a le droit dans la guerre, il l'a probablement violé parce qu'on parle de civils qui ont été tués, et puis il y a la possibilité effective de l'empêcher de faire la guerre, et malheureusement, même si le droit est partout, aujourd'hui, il se trouve un peu impuissant.
Grand merci, merci beaucoup pour cet éclairage juridique, et il est important de le rappeler dans les informés sur Beurre FM, vous avez raison, et c'est d'ailleurs votre regard, votre signature, comme chaque lundi, qui a comme angle le juridique. Merci maître Philippe-Henri Neguer.
Merci à vous.
Chez Ruben et Associés. À bientôt, au plaisir, lundi prochain,
à
belle
bientôt,
semaine.
Ouais.
On lance la pub, on se retrouve tout de suite après pour parler justement de cette guerre dans la tête de Poutine. Que veut-il ? Non mais il cherche quoi Vladimir Poutine ? A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Nadir Kaya, qui est le président de Banlieue Plus. Les informés, c'est aussi avec Abdeslam Itache, qui est le responsable coordinateur, qui est en charge donc du MoDem dans le département, sur le département du 95. Messieurs, second sujet, j'appelle aussi nos auditeurs à venir évidemment nous retrouver dans ce débat et à commenter l'actualité au 01 53 48 3000. Sujet, la guerre en Ukraine, que cherche-t-il? Que veut vraiment Vladimir Poutine? Vous savez messieurs, je cherche une rationalité dans cette logique que veut Vladimir Poutine. Bon, moi je ne vais pas donner mon point de vue, mais finalement, il cherche quoi Vladimir Poutine? Tiens, j'avais commencé avec vous, Abdeslam Itache.
Eh ben, ce qu'il cherche d'abord, c'est la pleine souveraineté de l'URSS. Vous voyez,
lapsus révélateur. Quel lapsus, hein?
Non, mais en plus involontaire, vraiment.
Nostalgique de l'URSS.
Il est passé de la Russie à la Fédération russe. Évidemment, ce qu'il veut, c'est absolument récupérer.
En même temps, Russie. Vous avez raison, il n'a jamais supporté que l'Ukraine soit indépendante. Il ne l'a jamais caché.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la Crimée, de par le passé, faisait partie de la Russie. Et c'est Lénine qui le concède à l'Ukraine. Mais comme tout était dans le bloc soviétique, en fait, il n'y avait pas de réel changement.
Et aujourd'hui, il réclame la Crimée. Hein.
La Crimée a été récupérée il y a bien longtemps.
Ah, mais là, il dans l'intégralité.
Oui, mais ça, c'est pas gagné. Puisque de toute façon, en Crimée, il y a eu un référendum où la plupart souhaitaient justement revenir sous tutelle russe et pas du tout sous tutelle de l'Ukraine. Donc ça, c'était le jeu était quasi plié. Par la suite, il y a eu des tentatives de pression sur Vladimir
Poutine. Mais dans la tête de Poutine, c'est ce que ma question, évidemment, elle est sous-jacente. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il cherche véritablement au-delà de la guerre en Ukraine? On sait bien, on connaît la géopolitique de la, évidemment, entre la Russie, et vous l'avez dit, l'ex-URSS et l'Ukraine. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, est-ce qu'il a une idée? C'est-à-dire quoi? Il veut déstabiliser l'ordre mondial? Il veut redessiner? Il veut redessiner la géopolitique? Il veut faire quoi?
Ce qu'il veut, et je vous l'ai dit,
il veut dire j'existe plus que tout.
La souveraineté de la Russie. Lorsque l'on a toutes ces bases de l'OTAN qui sont toutes autour de la Russie, allez voir de l'autre côté, il n'y a pas, ça avait fait scandale à l'époque, des missiles de Cuba. Donc, je vous laisse juste imaginer la disproportion
Kennedy, oui.
À la baie des cochons que Kennedy, enfin, il avait tenté justement d'envahir cette partie de Cuba. Mais revenons juste au contexte actuel. Vous avez la Russie qui est encerclée de base de l'OTAN et Poutine devrait ne rien dire. Vous voyez, il y a cette pression et à côté de ça, l'Ukraine qui dit que l'Europe ne veut pas que l'Ukraine intègre l'OTAN, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu une réflexion pour que l'Ukraine intègre l'OTAN. Vous voyez
En tout cas, c'est à l'ordre du jour. Ça, c'est sûr. Hein, c'est inscrit dans la Constitution
américaine. Ça, parce qu'on oublie de rappeler les.
Il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Je tiens juste à rappeler une chose. Le Donbass, aujourd'hui, qui a demandé son autonomie, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 8 ans, ils ont subi des bombardements de la part de l'Ukraine. Ça, on l'oublie. Moi, j'invite tous les auditeurs à rechercher sur Internet et retrouver ça. Pendant 8 ans, ils ont été bombardés. Si ce président ukrainien est aussi bon qu'on le pense, posez-vous la question de pourquoi est-ce qu'il supprime 4 chaînes de télévision d'opposition. Vous voyez, donc finalement, dans cette histoire, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a juste des intérêts.
Nadir Kaya.
Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question géopolitique ou de cette situation, mais quand je regarde un petit peu les différents débats à la télé aujourd'hui, je vois bien que personne ne peut se mettre à la place de Poutine. On a entendu des idées sur le fait qu'il serait peut-être atteint d'une certaine folie et tout ça. Moi, je pense pas. Je pense que c'est un homme qui est assez raisonné. C'est un homme qui est nostalgique de l'URSS, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, donc cette fameuse grandeur russe. Je rappelle que la Russie aujourd'hui est encore suffisamment grande, elle a suffisamment de ressources, elle a une armée
militairement en tout cas, elle est puissante.
Militairement,
elle est juste
c'est
après
la
les
numéro 2, voire la numéro 1 selon l'armement et selon certains éléments concernant l'armement.
Si vous parlez des missiles,
tout n'est pas révélé.
Si vous parlez de la bombe nucléaire, c'est sûr qu'ils ont.
Mais moi, je pense tout simplement qu'il y a un élément qu'on oublie et puis les Américains se cachent de le dire, c'est que la guerre froide n'a jamais cessé. Il y a des photos qui sont assez parlantes aujourd'hui sur les positions, notamment sur les missiles qui sont posés dans certains pays par les États-Unis depuis la guerre froide jusqu'à maintenant. On voit qu'en 40 ans, les États-Unis ont renforcé leur arsenal sur ces pays limitrophes de la Russie et qu'aujourd'hui, le seul et le dernier bastion proche de la Russie et frontalier avec la Russie, c'est l'Ukraine. Donc, au-delà de croire que c'est sous prétexte que Poutine voudrait envahir l'Ukraine, je ne pense pas qu'il veut envahir l'Ukraine. Il sait très bien que ce sont deux peuples amis, historiquement l'Ukraine et les Russes. Ce sont des peuples amis. Il n'a pas besoin des ressources de l'Ukraine. Là aussi, de fantasmer sur les fameuses ressources ukrainiennes, je n'y crois pas. C'est simplement une guerre d'ego, un rapport de force face aux États-Unis qui, eux, mettent en avant l'Union européenne et leur dysfonctionnement, même si Macron réussit quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, à réunir un peu cette Europe qui a failli dans le passé. Mais aujourd'hui, ce qui est vieux...
C'est ce qu'a réussi à faire un peu Emmanuel Macron, évidemment.
Oui. Faut pas oublier que la France est aujourd'hui à la tête de l'Union européenne, donc la Commission européenne, donc c'est à lui de jouer son rôle pleinement. Mais moi, ce qui me désole aussi là-dessus, c'est que Poutine n'est pas fou. Mais à un moment donné, il ne faut pas trop pousser le bouchon avec un homme qui est aussi armé que lui, déterminé et surtout en fin de mandat.
Abdeslam Itach ?
Alors, sans oublier tout...
Qui est en fin de mandat ?
Poutine, il arrive quand même...
Ah, il a reconduit, il est jusqu'en 2000...
C'est ce qu'il souhaite.
Après,
il y a aussi la volonté du peuple. Moi, je pense qu'aussi, il faut faire attention à un élément aujourd'hui.
Il a déjà inscrit sa réélection jusqu'à
2000... Oui, bien sûr, mais je pense qu'il est plus à la fin de son mandat qu'au début, comme on l'a connu à une certaine époque, notamment face à Sarkozy. Et il faut pas oublier la voix du peuple. Les Russes aujourd'hui, certains manifestent malgré quelque part le retour de bâton qu'ils peuvent avoir de la part de Poutine. Donc c'est très courageux à
ça
eux.
Ça commence, mais c'est timide.
Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui ont un rôle hyper important. Il n'y a pas que les missiles.
Abdeslam Itach.
Ouais, juste pour rappeler aussi l'histoire. De ces vexations dont a été victime Vladimir Poutine. N'oubliez pas que la Serbie avait été bombardée par l'OTAN, déjà par le passé, pays orthodoxe à l'identique de la Russie, qui avait été bombardée en pleine Pâques orthodoxe. Voilà, je vais y arriver. En pleine Pâques orthodoxe, vous avez des militaires américains qui écrivaient sur les bombes « Joyeuse Pâques ». Mmh. Donc vous voyez toutes ces vexations. Et ça, en dehors de l'avis de la Russie, donc vous voyez, les Américains finalement se permettent un tas de choses, se permettent de bombarder des pays comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Afghanistan. Le monde entier ne bouge pas une oreille et on reproche à Vladimir Poutine de reconnaître deux États qui demandent leur indépendance, que sont le Donbass. Donc vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Et moi,
est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que les États-Unis ont agi avec cette conscience d'instaurer, si vous voulez, les droits de l'homme,
les Américains,
la démocratie.
Les Américains, à chaque fois qu'ils sont déplacés,
je pose la question.
Instaurer la démocratie.
Je pose
alors
la question.
Dites-moi où est la démocratie en Irak. Dites-moi où est la démocratie en Libye.
Ils ont agi, si vous voulez, c'était dans l'intérêt, parce que c'était un pays autoritaire et totalitaire.
Adil, depuis l'histoire des Indiens d'Amérique et des cow-boys, je pense qu'on a quand même compris que les méchants n'étaient pas réellement ceux qui étaient désignés comme méchants et les gentils désignés comme gentils. Je pense qu'on a évolué. C'était plus compliqué que ça.
Mais moi, je voudrais revenir juste sur un dernier point qui est capital. Aujourd'hui, on se rend compte que les Européens veulent armer les Ukrainiens. Vous savez ce qui va se passer? Ces armes-là vont se retrouver dans les mains de certaines milices.
Comme on a vu en Libye, quand la France soutenait la rébellion.
Ils reproduisent à chaque fois les mêmes schémas. Ils savent très bien comment ça finira. Et c'est bien ça le drame.
Ça finira comment?
Mais ça finira avec des milices, avec des équipes qui justement s'octroieront des territoires, et ça sera l'anarchie.
L'anarchie. Bon, après, j'espère pas.
Si je peux me permettre, il y a un élément qu'il faut prendre en compte quand même. Poutine n'a pas eu encore officiellement le soutien de la Chine. Et là, pour lui, c'est un vrai revers. Là, je pense qu'il est en train de se poser des questions entre ça et aussi le fait qu'il y ait une certaine résistance au niveau de l'Ukraine qui fait qu'aujourd'hui.
Qui ne dit pas consent.
Voilà, il est pas si fort que ça aujourd'hui, clairement.
La Chine, je pense qu'à mon avis,
les Chinois se réservent le droit d'aller annexer Taïwan. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir.
Dites-moi, dernier sujet. Alors, j'étais en train d'appeler Bilal, alors que non, on me dit qu'il reste encore 3 minutes. Mais justement, tiens, on va faire un tour de table. Justement, je voudrais vraiment qu'on en parle, c'est ce Covid-19. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, vous le savez, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos, soumis au pass vaccinal.
Il n'y a que Adil qui le porte.
Je sais pas, moi, j'avais oublié que je pouvais enlever mon masque.
C'est le bon élève,
vous savez, voilà, exactement. Alors, ma question est très simple, on va faire un tour de table, messieurs. Qui dit, évidemment, on nous a beaucoup martelé en permanence, mais portez le masque, faites attention, la distanciation sociale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui, si on se relâche, de replonger dans une autre vague, vers la 5e, 6e vague? Attendez, je pose la question. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement plutôt rester vigilant, Nadir Kaya?
Non, mais bon, faut pas oublier qu'on nous a bassinés avec les fameux vaccins, les rappels.
Oui.
Et puis après, au bout du deuxième, on nous a bien confirmé que le vaccin ne nous empêchait pas d'attraper ce Covid, mais était simplement un petit frein. Donc aujourd'hui, je pense que les Français sont blasés de cette situation. Donc si on a la possibilité, moi le premier, d'enlever le masque, je vais le faire, quitte à le rattraper ce fameux Covid, parce que j'ai eu quand même 3 doses. Et je pense que la grande majorité des Français ont été triplement vaccinés. Donc à partir de là, je pense que ça suffit maintenant, qu'on nous laisse vivre normalement et qu'on essaie de se concentrer les uns avec les autres pour essayer de pallier à ce conflit qui est aux portes de la France, tout simplement.
Alors, j'aurais été d'accord avec mon ami Nadir sur toute l'émission, sauf sur cette partie-là.
Sur cette partie.
Je suis également vacciné 3 fois. Je continuerai à porter mon masque et j'ai pas le sentiment d'être dépourvu de liberté dans mes déplacements.
Vous savez qu'il y a des directeurs de théâtre et des directrices, notamment, je pense à quelqu'un là qui dit laisse le choix quand même à ceux et celles qui viennent voir.
De le porter ou pas.
Oui. De le porter ou pas. Bon, en tout cas, voilà, on respecte évidemment la liberté de chacun. Vous avez raison, si vous voulez le continuer à le porter.
On nous a quand même traumatisés pendant 2 ans.
On a encore des personnes aux urgences, en décubation ventrale. Ce n'est pas des choses faciles. Il faut penser aux autres plus qu'à soi et éviter justement.
Ah, ça, je ne peux plus entendre ce discours.
Merci, oui, Anadir Kaya.
On parlait d'un discours de la gauche, là, mais là, il y a un discours macroniste. Ça, c'est insupportable.
Mais le Covid n'est pas macroniste, je suis désolé.
Merci, Abdeslam.
La mauvaise gestion, si.
J'accueille Bilal Lenman, quel retour. Mon cher Bilal, comment ça va?
Début de semaine, ça va très très bien.
Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu.
On était là vendredi. On était là.
Ibiza.
Non, avec tout ce
qui se passe. Tout va bien, mon cher Bilal. Quel est le programme qui nous attend de 20h à 21h?
Justement, Abdelsalam, Marseille, on fait 1-1. Ils ont fait 1 contre 3. On va parler du scandale lyonnais. Sans oublier aussi ce qui se passe avec cette guerre en Ukraine. Et oui, avec l'élimination de...
Ça y est, recalé.
Ouais, c'est ça. La Russie.
La FIFA a tranché.
Et aussi le club pour l'UEFA du Spartak de Moscou.
Donc le Qatar, pour eux, c'est
voilà.
Fini.
Ouais, et aussi la finale. C'est bon, la finale, on en a déjà parlé.
Il devait se passer à...
Attention.
Au Stade de France, on va y aller.
On verra. Mais attention, cadeau peut-être empoisonné avec cette finale pour le Paris Saint-Germain. Au Stade de France.
Oui,
eh oui,
exact.
Voir. Parce que de voir, par exemple, le Real Madrid ou encore un autre club européen festoyer sur la plus grande avenue du monde, ça aussi, ça serait une mauvaise, mauvaise chose. La remontada, ils ont promis 10 000 places de plus, Abdelsalam. Et aussi Adil, le Real Madrid dans le Santiago Bernabéu.
Le Santiago
à l'arrivée
Bernabéu.
Du PSG, 10 000 places, c'est pas
mal. Quel programme, quel joli.
Sur le terrain, ils peuvent pas rivaliser avec le PSG, donc ils jouent avec leur.
Vous avez vu encore supporters. On commence à faire un débat avant l'heure.
On va voir.
Riche programme qui nous attend de 20h à 21h. Bilal, que vous retrouvez de 20h à 21h. Bonne émission, mon cher Bilal.
Allez, merci.
À la réalisation, c'était Yanis. Demain, on se retrouve avec autant de plaisir, vous le savez. On ne lâche rien, les amis. Allez, comme l'a dit tout à l'heure notre invité, allez vous inscrire avant le 4. Vous avez jusqu'au 4. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Chacun doit jouer son rôle de façon évidemment civique. On a ce droit. Allons-y. Accomplissons-le, tout simplement. À demain. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.